dont Victor Hugo apparaît comme un géant de la littérature française du 19e siècle. Dans son art et dans ses idées, Hugo se fait sinon le guide, du moins l'interprète éloquent des mouvements d'opinion. Persuadé que le poète remplit une mission, il a pris une part active au grand débat politique de son temps. La vie d'Hugo déborde largement la période romantique. En effet, au moment où ce mouvement littéraire renverse sa chute, Hugo, indifférent au monde littéraire, accomplit de manière solitaire les promesses du romantisme. Grantin l'auteur, vie et œuvre. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon d'un père bonapartiste, commandant, général et comte de l'Empire et d'une mère royaliste, qui leur donne une éducation libre et studieuse rue des Feuillantines, à Paris. Très jeune, il se lance dans la carrière de lettres. Ses odes et ballades, poésie, 1826, attirent très tôt l'attention. La pièce de théâtre Cromwell, 1827, très anticlassique, et le recueil de poèmes Les Orientales, 1821, le place à la tête du mouvement romantique. En 1930, la bataille littéraire qui entoure les représentations des « Hernani T » ourne au triomphe du romantisme et d'Hugo. En 1840, la fille du poète, Léopoldine, se noie accidentellement dans la Seine à Villequier. Suite à ce deuil, Hugo cesse un temps de publier. Après avoir soutenu Louis-Napoléon Bonaparte, il est vite déçu par sa politique conservatrice. Il militera alors contre la misère et le travail des enfants, pour l'assistance publique, la liberté de la presse et du théâtre et le suffrage universel. Il est contraint de s'exiler en tant qu'opposant au Second Empire à Jersey, puis à Guernesey. Cette épreuve politique lui inspire le recueil Les Châtiments, 1853, où il s'attaque à Napoléon. L'épreuve familiale, c'est-à-dire la mort de Léopoldine, lui inspire son chef-d'œuvre lyrique Les Contemplations, 1856, dans laquelle le poète pleure la perte de l'être aimé. Il se consacre ensuite à l'épopée humaine, qu'il traduit en vers dans La Légende des siècles, 1859, et en prose dans son célèbre roman « Les Misérables », 1862. À la chute du Second Empire, Hugo rentre à Paris couvert d'honneur, car l'histoire lui donne raison sur Napoléon Grand III, député puis sénateur. Hugo est l'idole de la gauche républicaine et l'écrivain populaire par excellence. C'est pourquoi, lorsqu'il meurt le 22 mai 1885, ses funérailles nationales le 1 juin 1885 voient une foule considérable se presser de l'Arc de Triomphe au Panthéon pour rendre un dernier hommage à celui qui aura marqué tout le 19e siècle sur presque tous les plans. Grande étude de l'œuvre A analyse les contemplations, comme le dit Hugo lui-même dans la préface de ce recueil de poèmes, représente les mémoires d'une âme. Ce livre retrace en effet l'itinéraire moral et spirituel du poète pendant un quart de siècle, 1830-1855, avec une coupure tragique à la date du 4 septembre 1843. C'est une âme qui se raconte dans ces deux volumes. Autrefois, aujourd'hui, un abîme les sépare, le tombeau. Toujours dans la préface du recueil, il revendique et explique la fonction du poète, qui est d'exprimer dans ses vers les questions de son cœur, les questions de tous. Il dit « je » plus qu'il ne dit « nous », car il est conscient que la destinée des hommes est une. C'est pourquoi il lance ce fameux cri « hélas, ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Les contemplations exprime la vie d'un homme, oui, et la vie des autres hommes aussi. Enfin, Les Contemplations est le livre où vit l'âme du poète. B. Genèse des Contemplations, c'est pendant son exil à Jersey, 1852, que Hugo envisage une grande œuvre en vers appelée Les Contemplations et qui sera divisée en deux volumes, autrefois poésie pure, aujourd'hui flagellation de tous les maux et des injustices. Il s'agit bien sûr de Napoléon et de ses complices. La mort de Léopoldine est considérée comme un crime. L'usurpation du pouvoir le 2 décembre 1851 est aussi un crime politique. Tous ces deux crimes posent le problème du mal. Le poète s'aperçoit qu'il ne peut juxtaposer les poèmes de douleur personnelle et les poèmes d'invectives politiques. Mais comme le temps presse et que le devoir de la résistance à la dictature n'attend pas, il travaille d'abord sur les poèmes politiques qui seront publiés en 1853 sous le titre des Châtiments. Ensuite, il se donne tout entier aux contemplations et aux questions lancinantes qu'il se pose plus que jamais. Pourquoi la mort des innocents? Pourquoi l'injustice triomphante? Pourquoi la misère et le chagrin? En mai 1856, paraissaient à Bruxelles et à Paris les Contemplations. C. Structure et composition des Contemplations. Le recueil est très bien structuré. Cette structuration est imposée par la mort tragique de Léopoldine. Les Contemplations sont composées de 157 poèmes, inclus l'épilogue, à celle qui est restée en France, qui dédie le recueil à Léopoldine, dernier poème qui clôt les Contemplations. La mort de Léopoldine domine le livre, lui donne son sens et son organisation. Elle éclaire même d'un jour nouveau tel poème antérieur à 1843. Hugo a ordonné et organisé ses poèmes de façon logique, chronologique et même psychologique. Ainsi, les Contemplations est composée de deux volumes, Autrefois et Aujourd'hui, un Autrefois, 1830-1843, 87 poèmes. Les poèmes qui composent ce volume sont supposés être écrits avant 1843. Ils racontent le bonheur parfait et connu, les fêtes de la famille et de la nature. C'est un ensemble de 87 poèmes qui témoignent de l'évocation de l'heureux temps. Hugo y retrace avec nostalgie les délices de son enfance, sa vie de couple, son bonheur paternel durant les 13 brèves années. Il regardait grandir ses enfants, il vivait dans l'extase. Mais tout à coup, la fatalité s'en mêle. Léopoldine se noie avec son époux le 4 septembre 1843. Cette partie est composée de 3 livres. Aurore, 29 poèmes, L'âme en fleurs, 28 poèmes et Les luttes et les rêves, 30 poèmes. Aurore symbolise le réveil, le commencement du jour. Elle représente aussi la lumière, la clarté qu'apportent les contemplations dans le mouvement romantique. C'était le matin de la vie du poète, les mouvements de bonheur qu'il a vécu avec sa famille. Dans L'âme en fleurs, le poète se redresse pour voir les choses en face après la tristesse et la douloureuse perte de sa fille. Son âme qui était fanée se refleurit. Il a maintenant le temps d'écrire. Les luttes et les rêves représentent les luttes du poète pour les ambitions politiques, sociales, mais surtout littéraires. Car après le manifeste du romantisme dans « La préface de Cromwell », qui est une véritable déclaration de guerre aux classiques, la bataille fait rage au cours des représentations d'Hernani de février à juin 1830. Hugo et les romantiques en sortent vainqueurs. B. Aujourd'hui, 1843-1855, 69 poèmes, cette partie est écrite par un Victor Hugo dans le désespoir. Il ne voit plus qu'avec son âme, ses sens étant enterrés avec le corps de sa fille. Cette fille présente tout pour le poète. C'est son sang, sa chair, et ce qu'il a aimé le plus au monde. Ainsi, les cris d'aujourd'hui sont les échos d'une tombe. Hugo, comme surgi du fond du gouffre, déchire l'univers par ses pleurs. Il blasphème. Ses poèmes, inspirés par la douleur paternelle, le souvenir désolé des temps heureux, avec le sentiment d'une présence de l'enfant disparu, comptent parmi les plus beaux de Victor Hugo. C'est la période de la grande puissance, qui provoque une crise de réminiscence heureuse, en comparaison au malheur aiguisé que vit le poète. Hugo rompt avec le silence de sa souffrance muette. On s'est même étonné que le poète ait écrit ses plus beaux vers au moment où Juliette Drouet venait de perdre à son tour sa fille. Loin d'être choquant, ce fait révèle un élargissement de la sensibilité d'Hugo. Il est désormais le frère de ceux qui souffrent. La souffrance lui a appris tout le sens de la communication humaine. Aujourd'hui, se compose de 3 livres, Pauca Meae, 17 poèmes, En marche, 26 poèmes et Au bord de l'infini, 26 poèmes. Dans Pauca Meae, premier livre de « Aujourd'hui », Hugo, rompant le silence de sa souffrance muette, chante tour à tour le souvenir de sa jeune fille bien-aimée, la douleur d'un père éprouvé par une fin si monstrueusement absurde, et la permanence de la souffrance par-delà l'exil, par-delà la tombe. Au bord de l'infini offre un élargissement considérable de l'inspiration hugolienne. Prenant ses distances par rapport à son drame personnel et paraissant contempler, cette fois d'un même regard contemporain, autrefois et aujourd'hui. Le poète s'abîme dans une vision conscience universelle. Dans « Au bord de l'infini », dernier livre des contemplations, Hugo nous fait assister à la lutte des lumières et des ténèbres, la vie et la mort. En effet, retrouve sa foi chrétienne et sa lucidité après une période de scepticisme liée à la perte cruelle de sa fille.